RFI 6h30 à Abuja et Paris 8h30 à Mamoudzou. L'heure du journal d'Edouard Dupénoat. Bonjour Edouard.
Bonjour. Deux présidents sur trois, pas de tripartite et des espoirs douchés à la une de cette édition, la réunion de Luanda qui ne s'est pas tenue en l'absence de Paul Kagame. Kinshasa dénonce les exigences irréalistes de la partie rwandaise. Kigali ne voyait pas l'intérêt de venir vu l'échec des ultimes négociations. Chido sème la désolation à Mayotte. Des centaines de morts redoutées au bas mot. Les premiers avions se posent pour apporter du matériel d'urgence. Et la diaspora mahoraise ronge son frein. Impossible de joindre l'archipel. Les réseaux téléphoniques sont en lambeaux. L'ambassadeur de France en Algérie, convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Les services secrets français auraient tenté de planifier des attentats sur le sol algérien en recrutant pour cela un ex-djihadiste, accusation fantaisiste, répond le chef de la diplomatie à Paris. La CEMAC au régime sec, réunion extraordinaire aujourd'hui des dirigeants de cette zone économique d'Afrique centrale. Les caisses sont vides, le FMI n'est pas content. Enfin, Hervé Patrick Opianga reparaît en vidéo, l'ancien ministre gabonais évaporé dans la nature, qui se dit innocent des faits que la police le suspecte d'avoir commis. Et la désillusion donc sans doute à la mesure des espoirs déchus. La réunion tripartite de Luanda annoncée hier n'a finalement pas eu lieu. Cette rencontre, João Lourenço, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, à laquelle ce dernier ne s'est finalement pas rendu. Il y avait pourtant une ébauche d'accord de paix prête à être soumise au président de RDC et du Rwanda. Les espoirs que le président angolais exprimait publiquement quelques jours plus tôt, celui de voir un texte enfin signé pour faire taire les armes dans la province congolaise du Nord Kivu. Et finalement, Paulina Zidi, la partie congolaise qui dénonce les exigences irréalistes du Rwanda.
On constate que la tripartite n'aura pas lieu puisqu'une partie n'est pas là, confiée avant l'annonce officielle une source congolaise. Une demi-surprise puisque les discussions, tard dans la nuit de samedi à dimanche entre les ministres, avaient été infructueuses. Félix Tshisekedi a néanmoins pris son avion, sachant qu'il n'y aurait probablement pas d'accord. Nous étions invités, nous sommes allés au bout de notre engagement, justifié un membre de la délégation. Le point d'achoppement, c'est la mention d'un dialogue direct entre la RDC et le M23 que le Rwanda voulait les faire inscrire dans l'accord. Ces sorties du chapeau expliquent une source diplomatique proche de Kinshasa. Une exigence rejetée par la délégation congolaise. C'est en effet la ligne rouge de Kinshasa depuis plus de 2 ans. Pas de négociation directe avec les rebelles. Et de rappeler que le M23 s'est en plus auto-exclu du processus de Nairobi en prenant les armes. Pour la porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, le Rwanda a torpillé le processus de paix. Difficile en effet aujourd'hui de savoir si le processus de Luanda pourra surmonter cet échec. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et côté Kigali, en revanche, le ministre des Affaires étrangères explique au contraire que le refus de dialoguer avec le M23 contredit l'accord initial et que la rencontre n'avait plus de raison d'être au regard de l'échec des discussions de la nuit. Mayotte reçoit ses premiers vols d'aide humanitaire d'urgence. Nous sommes 48 heures ce matin après le passage dévastateur de Chido. Si le bilan officiel fait état de 11 morts, le préfet du département en redoute en fait des centaines, voire des milliers, ce sont ses termes. L'alerte rouge est levée puisque le cyclone s'est éloigné et qu'il a frappé hier matin d'ailleurs le Mozambique. Les réseaux de communication sont toujours très perturbés. Il est quasiment impossible de joindre des pans entiers de l'archipel, de quoi rendre l'attente insupportable pour toute la diaspora comorienne mahoraise à l'étranger. Elle est particulièrement nombreuse par exemple à Marseille, une ville du sud de la France. Mohamed Itrisso y est le président de l'association Ouchababi. Il tente d'organiser la solidarité vaille que vaille.
Le réseau n'est pas bon, donc depuis hier, on n'arrive à avoir personne sur place. Et c'est ça qui fait le plus peur en fait, de pas avoir de nouvelles. Donc voilà, on est en attente aussi de pouvoir renouer le contact et à partir de là, en fonction des besoins, mais il y en aura un peu de partout. On sait que oui, les États ils vont mettre des choses en place et il ne faut pas qu'on fasse la même chose qu'eux et qu'on touche un autre public qu'eux, peut-être qu'ils ne vont pas toucher. Il y a les grandes villes, mais il y a aussi ceux qui sont dans les coins perdus. C'est surtout eux qu'on essaye de toucher, nous. Parce que c'est pas la première fois, en tout cas, qu'on essaye en tout cas de donner un coup de main. On n'anticipe pas les pouvoirs publics. Moi, je pense qu'ils font pas les choses correctement. C'est pas des priorités de base d'anticiper. C'est des îles, donc ils sont vraiment confrontés à la colère de la météo quand la météo, elle se décide, quoi.
Mohamed Itrisso, joint par Sophie Bourlet. Plusieurs ministres du gouvernement français démissionnaires sont attendus à Mayotte ce matin. La présidente de la Commission européenne se dit prête à envoyer l'aide de l'UE dans les prochains jours. Le froid diplomatique entre l'Algérie et la France s'accroît encore. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué il y a plus d'une semaine par le ministère des Affaires étrangères dans une nébuleuse affaire d'accusation terroriste. Les services secrets français aurait tenté de recruter à Alger un ancien terroriste revenu des terrains de guerre pour faire de lui non seulement un espion, mais aussi l'organisateur de potentiels attentats sur le sol algérien. Alexis Guilleux revient sur l'affaire.
Il y a plus d'une semaine que l'ambassadeur français Stéphane Romatet a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères, mais la presse algérienne a révélé cette information seulement hier, la convocation du diplomate français n'ayant pas été officiellement annoncée. En cause, un reportage récemment diffusé par la télévision publique dans lequel Amin Aissaoui, 35 ans, présenté comme un ancien djihadiste en Syrie et en Irak, affirme avoir été contacté à Alger par des agents français de la DGSE. D'après ses dires, ils lui ont demandé d'espionner les islamistes radicaux dans les quartiers populaires algérois, de se rendre au Niger pour s'informer sur les groupes armés, puis de constituer une cellule terroriste en Algérie en vue de commettre des attentats. Le journal gouvernemental El Moudjahid, qui cite des sources diplomatiques crédibles, écrit que l'ambassadeur de France a reçu, je cite, « la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie ». Ces agissements ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence, poursuit la source du journal.
Et le chef de la diplomatie française, interrogé par nos confrères de France Inter, confirme et dit regretter la convocation de l'ambassadeur de France. Il dénonce aussi des accusations infondées et fantaisistes. Des frappes de drones attribuées au FSR du général Emeti font 38 morts dans un quartier de la ville d'El Fasher, la dernière ville du Darfour dans l'ouest du Soudan qui échappe à leur contrôle. Au moins 4 missiles ont été tirés avant-hier soir. Sur le Soudan encore, cette longue enquête de Human Rights Watch qui documente les atrocités sexuelles imputées au FSR, toujours dans l'état du Kordofan du Sud. L'ONG a recueilli des dizaines de témoignages de déplacés qui parlent de viols de masse et d'esclavage sexuel. Entre décembre 2023 et le mois de mars de cette année, vous en retrouverez les détails sur RFI.fr. Le sommet de la CDAO tente une ultime carte pour retenir en son sein le trio Burkina, Mali, Niger. Les dirigeants ouest-africains annoncent qu'une période de 6 mois s'ouvrira le 29 janvier, la date à laquelle le départ des 3 pays est censé être définitif. Pendant ces 6 mois, ils auront encore la possibilité de revenir sur cette décision qu'ils ont plusieurs fois annoncée d'ailleurs comme irréversible. Autre sommet régional, celui de la CEMAC, aujourd'hui Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mais sommet extraordinaire cette fois parce que les comptes sont dans le rouge. Le FMI envoie d'ailleurs des représentants. La région présente des signaux d'alerte préoccupants, dit pudiquement le Fonds monétaire. De quoi, potentiellement, en tout cas, couper le robinet au Cameroun, au Congo-Brazzaville et à la Centrafrique, Charlotte Cosset.
La dette publique de la région s'est accrue. La CEMAC pointe entre autres l'accélération de l'endettement du Congo. Cédric Diongo, spécialiste de la CEMAC chez Sika Finance.
Vous avez des pays comme le Congo qui éprouvent beaucoup de difficultés au plan budgétaire, avec une dette qui a frôlé les 100% du PIB. Avec plusieurs accumulations d'arriérés internes, le Congo a eu à enregistrer plusieurs retards de paiement, même sur le marché, a été contraint de rééchelonner les remboursements sur sa dette. Bref, il y a une gestion difficile d'endettement aujourd'hui.
À moyen terme, une dégradation du solde budgétaire est inévitable, note la CEMAC, et serait portée par des déficits plus importants au Gabon, note encore l'organisation régionale, Cédric Diongo.
Le projet de loi de finances que le Gabon a mis en place, le niveau des dépenses publiques augmente plus que celui de l'investissement. En matière de mobilisation de la dette, il y a une demande qui sera encore plus importante parce qu'il y a beaucoup d'échéances de remboursement qui arrivent. Je crois qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été mises en place, mais il y a des points d'achoppement.
Autre objet d'inquiétude, les réserves de change pourraient s'établir à 3 mois plutôt que les 5 recommandés. Les banques se trouvent également en situation de fragilité. Si la dévaluation n'est pas encore à l'ordre du jour, des engagements forts et concertés devront être nécessairement pris pour, je cite, franchir ce cap périlleux.
Charlotte Cosset, la réapparition sur les réseaux sociaux au Gabon d'un ancien ministre qui ne donnait plus de nouvelles. Hervé Patrick Opianga, ancien ministre ministre des Mines, réputé proche aussi de l'ex-président Ali Bongo, introuvable depuis pratiquement un mois. La police judiciaire notamment avait fait savoir qu'il ne s'était pas rendu aux convocations qu'elle lui avait adressées. Il est suspecté, entre autres, de viol et de séquestration. Paul Lorgerie, lui, se défend de ces accusations.
Loin de ses costumes trois pièces et de son bouc bien taillé, Hervé Patrick Opianga, dit HPO, arbore une barbe hirsute et un t-shirt blanc. Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook du journaliste en exil Jonas Moulenda, l'ancien ministre des Mines, qui ne donnait plus de nouvelles depuis le 22 novembre, justifie son mutisme.
Je n'ai pas fui. Pour des raisons de sécurité, il fallait que j'observe une période de silence, d'observation.
Revenant sur les accusations de viol et de séquestration qui lui sont reprochées, Hervé Patrick Opianga évoque également la sortie du procureur de la République, Bruno Obiangwe. La veille, le magistrat avait en effet annoncé que l'homme d'affaires est désormais soupçonné d'une tentative d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et que des perquisitions avaient été effectuées chez lui ainsi que ses proches.
Au cours de celle-ci, une somme de 179 645 449 francs CFA a été retrouvée, ainsi que des documents susceptibles d'atteinte à la sûreté de l'État.
Un mensonge, s'offusque l'homme d'affaires, qui dénonce une manipulation de la justice, tout en appelant le président Brice Oligui Nguema, dont il a été proche au lendemain du coup d'État, à tout faire pour, je cite, « œuvrer à ce qu'il y ait une accalmie ».
La colère est récurrente et elle n'est toujours pas réglée. À Dakar, une trentaine d'organisations civiles appelaient à défiler hier contre l'inextricable problème d'obtention des visas. Se rendre en Europe ou en Amérique relève du chemin de croix pour celles et ceux qui demandent les documents nécessaires, les délais d'attente interminables, les intermédiaires et les sous-traitants privés, les sommes qu'il faut engager et les refus incompréhensibles. D'où cette marche pour des procédures justes et équitables, Juliette Dubois.
Derniers échauffements avant de commencer la marche, plusieurs centaines de personnes sont réunies pour demander la révision des politiques d'octroi des visas au Sénégal et dénoncer des procédures opaques et coûteuses, comme l'explique Adja Meissa Gueye de l'Association de défense des aides ménagères.
Il y a mon mari qui voulait partir au Canada. Aussi, il avait un forum qu'il devait faire en Italie et aussi en France. À chaque fois qu'il tente, le visa lui est refusé. Il a eu tous les documents. On ne donne pas de raison, voilà, vraiment. Le pire en est que la somme qui est versée, on le lui restitue.
Décrocher un simple rendez-vous de demande de visa est compliqué, comme explique Abigail Sarr, coordinatrice du réseau Migration et Développement qui chapeaute le collectif.
Même là, il y a des intermédiaires en bas qui viennent pour demander de l'argent pour vous permettre d'avoir un rendez-vous plus proche.
Pour ces organisations, améliorer la circulation permettra de lutter contre les nombreux départs de jeunes en pirogue vers l'Europe.
Quand on favorise la circulation, ça permet de baisser un peu l'immigration irrégulière. Malheureusement, qu'on a essayé de régler à travers la répression et on a vu que depuis 20 ans, le problème est là.
Pas d'amélioration donc. Sangane Sangor de l'ONG Radeau pour les droits humains espère que les nouvelles autorités entendront leur plaidoyer.
Tout État a la possibilité, le droit de dire « c'est comme ça que j'organise les entrées et les sorties dans mon État ». Mais si les États européens persistent dans ça, nous demanderons à nos États de revenir à la réciprocité.
En novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko avait également proposé d'instaurer la réciprocité entre pays pour les visas. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
À Dakar ou à 5h43, c'est Andréane Mellard qui vous